Bonjour à tous et bienvenue sur L'Essentiel, le podcast qui vous invite à redécouvrir ce qui est essentiel pour vous et qui vous inspire l'envie de vous réaliser. Je m'appelle Yeba Olaye et j'ai fondé Yeba, une marque de maroquinerie essentielle. Ce podcast, c'est ma façon de continuer mon histoire avec vous, de continuer à vous inspirer, d'être vous-même. À travers chaque interview, nous irons à la rencontre de personnalités inspirantes et singulières. Des femmes du monde, d'ici et d'ailleurs, qui ont osé suivre leur voie, qui ont osé se lancer dans une aventure incroyable pour réaliser leurs rêves. Nous parlerons de leurs débuts, des choix audacieux qu'elles ont posés, des chemins qu'elles se sont frayés et de ces petites choses, routines et croyances qui les font avancer. Nous essaierons d'apprendre d'elles et surtout d'oser grâce à elles. Finalement, l'essentiel n'est-il pas de... Et si on y répondait aujourd'hui ? Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour Alix, c'est un plaisir de te recevoir sur le podcast L'Essentiel. Merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue à toi.
Merci de m'avoir invité, Yeva. Je suis très contente d'être ici. J'ai hâte.
Oui, et là, on est installés ici au studio et on est toutes les deux à Bruxelles. Tu me disais que tu déménageais pas, dans pas longtemps. Quand j'ai préparé l'entretien, je me suis dit, oh là là, on pourrait passer 2 heures tellement elle est passionnante. Avant que je n'en dise de trop, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Oui, bien sûr. Je m'appelle Alix. Je suis basée à Bruxelles. J'ai vécu dans plusieurs pays différents auparavant et à la base, j'ai des origines espagnoles. Pour l'instant, j'ai une société depuis 6 ans. On a une équipe de 12 personnes et c'est centré sur le women empowerment, donc aider surtout des femmes à lancer leurs activités, leur business ou les développer, agrandir leur chiffre d'affaires. Donc, ça fait 6 ans que je fais ça. J'ai aussi des clients hommes individuels. Mais dans mes groupes, j'ai une business school en ligne. C'est surtout des femmes qui sont à Bruxelles. C'est une communauté qui est physique aussi. C'est plutôt des femmes, en fait. Donc voilà. Et avant ça, je travaillais dans le monde des startups. Une ambiance très masculine, hustle culture, go, 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 no sleep, no eating. Enfin, il fallait tout le temps travailler. Enfin, c'était le stress.
Très has-been, parce que même aujourd'hui, dans les startups, on n'en veut plus de ça aussi. Donc,
C'était intense. J'ai beaucoup appris. J'avais ma propre start-up. Je travaillais pour un incubateur de start-up. J'ai aussi travaillé pour les Nations Unies où j'ai développé un programme pour éduquer les femmes dans les pays en développement à lancer leur business. Et en fait, j'ai développé le programme. Je suis allée en Italie pour ça. Et après, il y a eu toute une équipe qui a voyagé partout dans le monde et qui a donné ce training dans différents pays en développement à des femmes, en fait. Et donc, ces femmes, après, commencent leur business et sont empowered, financially empowered, en fait, tu vois.
Vraiment, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Tellement contente de t'avoir parce que on a vraiment besoin d'une experte, de quelqu'un comme toi qui va justement pouvoir nous donner des clés pour avancer dans nos projets. Déjà pour oser se lancer et à travers ton histoire d'abord. Et on terminera par peut-être quelques conseils que tu peux transmettre de manière plus pragmatique. Mais parlons de ton histoire. Commençons par l'enfance, parce que d'habitude, je demande depuis les études, mais tu sembles avoir eu plusieurs vies. Alors, commençons par l'enfance. Tu es née, tu rêvais de quoi quand tu étais enfant ?
Alors, je suis née au Luxembourg parce que mes parents sont tous les deux espagnols de Barcelone, mais mon père travaillait pour l'Union européenne toute sa vie, et donc du coup, il était basé au Luxembourg pour son travail. Donc, je suis née dans un autre pays, je suis restée là jusqu'à l'âge de 6 ans, et puis après, on a déménagé à Bruxelles.
D'accord.
Donc j'ai grandi à Bruxelles jusqu'à mes 20 ans. Après, je suis partie aux Pays-Bas.
Vous avez déménagé vers à quel moment ? Tu avais quel âge ?
6 ans.
6 ans.
Quand je suis partie du Luxembourg,
Ok, d'accord.
Et je suis arrivée à Bruxelles. C'était plutôt dans mon adolescence où j'ai commencé à avoir plein de problèmes. Avant ça, c'était plutôt une enfance. Enfin voilà, j'étais toujours première de classe. Je faisais toujours plein d'activités. Enfin voilà, j'étais high performer. Et il y a un moment où en fait tout mon corps physique, émotionnel, mental, tout a implosé quand j'avais aux alentours de 16 ans. Et personne n'a rien compris en fait. Et pendant 3 ans, j'ai fait le tour de tous les hôpitaux de Bruxelles. Je suis rentrée, sortie de tous les hôpitaux. Parfois, je dormais pendant une semaine entière à l'hôpital. On me faisait des tests toute la nuit. On me réveillait. C'était une torture. Il y avait des tests.
À 16 ans, c'est violent.
Ouais.
C'est un moment de ta vie où t'es plein d'espoir, tu grandis, tu vois la vie se profiler et toi, on t'annonce que ça va pas.
Oui.
Oui.
Et les gens de ma classe, enfin, tu vois, leur vie, c'était apprendre à sortir entre eux, aller en boîte, enfin, ce genre de choses. Et moi, je suis à l'hôpital, en fait. Et je me sentais pas du tout bien. J'ai pris beaucoup de poids très vite. J'étais en dépression, mais vraiment profonde. Mes hormones étaient complètement déséquilibrées. Après, on a trouvé une tumeur au cerveau. Ma mère qui commence à pleurer. J'ai dû la rassurer à 16 ans. Enfin, c'était, enfin, bref, c'était tout un.
Qu'est-ce que tu avais? Qu'est-ce qui a fait que pendant 3 ans, ta vie a été mise entre parenthèses? Et tu étais dans les hôpitaux.
Mais en fait, ils ont mis vraiment beaucoup de temps à me diagnostiquer. C'est souvent le cas avec les maladies auto-immunes. Et finalement, ils m'ont diagnostiqué avec une maladie auto-immune. C'est Hashimoto, c'est de la gorge. En fait, c'est très courant comme maladie auto-immune, mais ils ont juste eu du mal à le diagnostiquer. Je ne sais pas pourquoi. Et au final, ils ont fait ce diagnostic. Ils m'ont dit, bon voilà, on t'a plus ou moins fait plein de tests pendant 3 ans. Il n'y a pas grand chose à faire, donc tu retournes chez toi, ça s'empire avec le temps, ce genre de maladie, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de cure, et en plus, quand tu as une maladie auto-immune, c'est plus probable d'en avoir une deuxième, une troisième, enfin voilà, bref,
ouais, magnifique. Ils te laissent sortir après 3 ans de dépression, oui. Avec un point d'interrogation, oui. Sur la suite,
oui.
Comment est-ce qu'on aborde ça quand on est si jeune, que ta vie ne va pas aller en s'améliorant, qu'est-ce que ça développe en toi et comment toi tu en es sortie? Parce que je t'ai devant moi, tu rayonnes, tu es radieuse, on ne pourrait jamais imaginer que tu es passée par ça. Mmh. Donc raconte-nous.
Mais en fait, bon, ma mère a joué un rôle important dans cette histoire parce que elle, bon, elle est très sensible et elle a commencé à faire plein de recherches aussi de son côté où elle a commencé à rechercher la médecine fonctionnelle, la santé holistique, tout ça. Et donc, elle a changé l'alimentation de notre famille à la maison, par exemple. On a commencé à manger très, 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 très sain, mais elle a radicalement tout changé, en fait. Et ça, je continue à manger comme ça, en fait. Ça a eu un impact énorme très tôt, même si elle savait pas exactement quelle cure, mais elle a très vite compris en lisant plein de livres que, en fait, il y avait beaucoup de façons d'améliorer la santé de façon holistique, pas nécessairement à travers des médicaments, mais plutôt un style de vie, d'améliorer l'alimentation, le sport, la méditation, enfin plein de choses. Et donc, elle a fait ce changement à la maison. Et après, moi, il faut savoir que j'étais en dépression profonde, donc j'avais pas envie. Chaque heure de chaque jour, c'était une torture pour moi. Je voulais pas, en fait, avancer. En fait, je voulais pas. Mais il y a un moment où j'ai dû prendre la décision vers 16, 17, 18 ans. Bon, il faut, enfin, on peut pas continuer comme ça parce que c'est assez déprimant. Donc, ou bien we give up, enfin, on laisse tomber, ou bien on avance et on se bat et on trouve des solutions. Et j'ai commencé à faire des recherches en ligne et j'ai trouvé des médecins fonctionnels. Donc, c'est de la médecine fonctionnelle holistique.
Explique-nous ce que c'est.
Aux États-Unis. Mais en fait, c'est révolutionnaire. Maintenant, heureusement, il y en a beaucoup à Bruxelles aussi, des médecins fonctionnels, c'est un peu partout. Mais la médecine fonctionnelle, mais en fait, ça, on va regarder l'individu comme une personne qui a un corps émotionnel, physique. Enfin, c'est pas que une prise de sang, en fait. C'est une personne qui a des traumatismes, qui a des émotions. Et tout ça, c'est relié, en fait. Et si on a un trauma, ça va normalement se voir sur le corps. Enfin, il y aura des symptômes, des choses comme ça. Et donc, les médecins fonctionnels, c'est des vrais médecins. Donc, parfois, les gens pensent que c'est alternatif, non. C'est des vrais médecins, mais qui vont vraiment faire des prises de sang très, très complètes et qui vont vraiment aller à l'origine des symptômes qu'on a. Et c'est comme ça que j'ai réussi à enlever tous les symptômes et à rentrer en rémission, ce qui est très rare, en fait, dans les prises de sang, de voir que, bon, pour les maladies auto-immunes, c'est des anticorps. Ça diminue, en fait, et tout s'améliore avec le temps. Mais ça m'a pris, au moins 16 ans à trouver... maintenant, j'ai 33 ans, à trouver... Enfin, des choses qui me font vraiment bien me sentir, en fait. Donc, j'ai testé plein de choses et j'ai trouvé un coach de santé holistique quand j'avais plus ou moins 20 ans. Ça, c'était le début. Compris cet aspect de médecine fonctionnelle, en fait, où il faut aborder la personne de façon holistique. Et donc, j'ai compris qu'un des piliers, c'était la santé mentale, émotionnelle. Donc, j'ai appris à méditer, j'ai appris à bien manger... J'ai appris à faire du sport. Enfin voilà, c'était un peu un début. Pour moi, quand je regarde maintenant, c'était vraiment un cadeau, une initiation, je trouve, tôt dans la vie pour commencer à rentrer dans le monde du développement personnel, tu vois, et à trouver des outils pour mieux se sentir. Et peu à peu, j'ai vu que je me sentais mieux et mieux et mieux, que c'était vraiment possible de transformer quelqu'un, en fait, avec les bons outils et de ne pas juste dire bon, je laisse tomber, tu vois, je prends des médicaments ou des choses et je me sens de pire en pire. En fait, il y a plein de solutions. Petit à petit, j'ai vu qu'il y avait plein d'outils et j'ai commencé à explorer plein de, tu vois, de choses différentes, la spiritualité, les coachs, enfin le coaching, enfin plein de choses. Donc
Mais qu'est-ce que tu voulais faire de ta vie? Qu'est-ce que, parce que bon élève à la base, ouais. qu'est-ce qui t'intéressait? Qu'est-ce qui t'attirait? Quelles études tu voulais entreprendre pour être devenue la femme entrepreneuse que tu es aujourd'hui?
En fait, je voulais, depuis assez petite, j'avais cette vision de devenir médecin parce que je voulais aider les gens, je voulais les guérir. Je voyais, j'ai regardé toutes les séries de médecins qui existent, même la plus ancienne, je pense, c'est Dr. Quinn, c'est une
médecine. Oui, enfin, voilà.
Bien sûr, ok, merci. J'ai regardé tous les épisodes, enfin Dr. House, enfin Urgence, enfin tout. Ça me passionnait et j'ai fait un stage vers mes 17 ans. C'était obligatoire dans mon école. J'ai fait un stage dans salle de chirurgie. Okay. J'étais vraiment dans la salle de chirurgie. Je voyais des opérations de 12 heures, genre vraiment des trucs assez hardcore. Oui. Et j'ai adoré. Et les médecins, ils étaient perturbés. Ils me disaient, mais pourquoi tu t'évanouis pas? C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? J'étais genre, waouh! Et en fait, en terminant l'école secondaire ici à Bruxelles, j'ai commencé médecine à Bruxelles. Et j'ai fait 2 ans de médecine. Mais en fait, ça m'a gavé. Enfin,
tu peux le dire. Ma sœur a fait ses études ici à Bruxelles, elle est médecin.
Ok.
Et je sais que les candies, c'est l'enfer.
Ah non, mon Dieu.
C'est tellement à l'ancienne, tellement... Ouais.
Il faut vraiment se battre, en fait, parce que ça n'a rien à voir avec guérir les gens les premières années, en fait. C'est de la physique pure et dure, des exercices, enfin, bon, bref. Et on était 1200 en première année. En deuxième, il y avait de la place pour que 200 personnes. Et donc, il y avait, voilà, ce filtre. Et après 2 ans, j'ai dit, bon, basta. Et je suis partie du pays, carrément. Et je suis partie aux Pays-Bas.
Okay.
Voilà. Et là, j'ai recommencé. Ça, pour le coup, ça a bien marché. Donc, j'étais à Maastricht. Ah, j'ai fait mon bachelor et master là-bas. Et après, j'ai trouvé un travail là-bas dans le monde des startups.
Et tu étais dans quelle université? Parce que moi, j'ai fait mon Erasmus à Unimas. Et j'ai fait...
Maastricht University? Oui, voilà, moi aussi. Oui.
Génial, ouais. Parce que c'est une ouverte... Enfin, l'approche est complètement différente.
Voilà.
C'est sur le sens critique, c'est l'esprit d'analyse. Oui. On brainstorm tous ensemble. Et en même temps, c'est très international. Donc moi, j'avais pris des majors, International Finance et International Marketing.
Voilà.
Et je trouve que ça m'a donné un esprit critique qu'on ne m'a jamais donné ici, à Bruxelles.
Voilà, oui. Mais c'est magnifique, je ne savais pas, donc on a ça en commun. Ouais. C'est des petits groupes, en fait, et c'est vraiment... tu étudies de ton côté, tu prends en main les choses, en fait. Tu prends responsabilité de tes études. Oui. Donc, moi, ça me correspondait beaucoup mieux. Donc, j'ai fait mon bachelor là-bas, Maastricht University, mon master aussi. Et puis, avant que je finisse mon master, il y a un accélérateur de start-up qui m'a contacté pour que je rejoigne l'équipe qui commençait. Et entre-temps, j'avais...
Ils t'ont contacté. Comment est-ce qu'un incubateur arrive à trouver une pépite comme ça à travers des milliers d'étudiants?
Mais en fait, bon, c'est à travers une amie qui travaillait déjà là-bas et qui m'a dit « On a absolument besoin de quelqu'un comme toi. » Et ce qui s'est passé, c'est que... Enfin, quand j'étais adolescente... à part tout ce qui s'est passé, j'avais mon propre business de bijoux.
D'accord.
Et je vendais à des magasins sur plusieurs fois par an dans différents pays. Et je faisais du profit, donc je faisais des bijoux pendant plusieurs années. Et on a même créé une équipe, il y a les jeunes entreprises ici à Bruxelles.
Okay.
Et donc on a gagné un prix avec les jeunes entreprises, avec mon truc de bijoux et tout. Donc ça, c'était ma première expérience entrepreneuriale. Et après... Aux Pays-Bas, je voulais absolument, j'ai dû arrêter mon business de bijoux, mais je voulais absolument retrouver en fait cette énergie que j'adorais en fait. C'était comme un jeu pour moi de commencer un business, tu vois, d'avoir une idée et puis de trouver des solutions et de le vendre et d'écouter les clients et prendre le feedback et tout ça. Et donc aux Pays-Bas, à côté de mes études, pour moi les études... c'était très bien, mais ça m'ennuyait un peu. Je me sentais pas assez challengée, en fait. Et donc, à côté de ça, j'ai fait partie de plusieurs startups. Je faisais partie d'un centre d'entrepreneuriat à Maastricht. Donc, j'étais volontaire là-bas, je travaillais et j'organisais des conférences pour entrepreneurs. Et du coup, j'étais vraiment dans le réseau des startups et des entrepreneurs. Et moi, ça me passionnait, en fait. Je trouvais ça beaucoup plus amusant que les études. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont contactée.
Voilà. Merci Parce que tu avais fait une petite parenthèse.
Et oui.
D'un coup, ils sont venus me chercher. Ok, d'accord. Elle voulait plus faire médecine. Elle aimait bien ses cours. Et puis, ils sont venus la chercher. Tu as oublié tout un...
Il y a une partie, ouais. Mais, ouais.
Et comment c'était ? On a commencé cette conversation en disant, ben voilà, c'était intense. Ouais. Comment c'était au début ? Est-ce que c'était plus stimulant ou c'était challengeant mais difficile ? C'était limite burn-out ? Comment toi, tu as vécu ces premières années
Ça a duré un an et demi.
Ok.
Je n'ai pas toléré plus longtemps. c'est le seul job à temps plein que j'ai eu de ma vie. C'est tout. Un an et demi. Et en fait, même si j'avais beaucoup de liberté, en fait, au début... C'était très bien. Ce qui s'est passé, c'est que je pense que c'était même la première semaine où on m'a mis devant l'ordi et on m'a donné, voilà, des fichiers Excel, des choses comme ça, un travail à faire. Et j'ai dit non, je peux pas faire ça. Et c'était vraiment la première semaine où il y a eu une idée d'un projet. Et en fait, on m'a proposé de faire partie des startups parce que c'était dans l'accélérateur de startups. Et on a bien vu, le CEO a bien vu que j'allais pas. Enfin, juste faire un travail normal, j'arrivais pas à rentrer dans cette case-là, en fait. Et donc, il m'a dit, voilà, j'ai une idée de start-up, est-ce que tu peux la développer ?
C'était quoi, cette idée ?
C'était un software qui met en relation des start-up qui commencent, vraiment, qui commencent et qui cherchent des investisseurs qui sont prêts à investir dans des start-up très jeunes, en fait.
Okay,
voilà. Et donc, il voulait... Bon, ça, c'était l'idée, plus ou moins, en résumé, c'est ça. Et voilà, lui, il n'avait pas le temps et tout ça, donc il avait beaucoup d'idées. Et c'était quelque chose, un outil qu'il voulait utiliser pour son incubateur et potentiellement de le vendre à d'autres... Enfin, tu vois.
Oui.
Et moi, j'étais trop contente. Je me suis dit, waouh, ça va être beaucoup plus amusant de faire ça. Et donc, j'avais partie de tous les programmes d'incubation, accélération. C'est très intense, en fait, à côté de mon job. Donc, j'avais deux jobs. Et on m'a dit, juste carte blanche, en fait. Tu te débrouilles, mais tu le développes si tu veux vraiment ce challenge. Ben voilà. Et du coup, on avait des masterclass tous les jours. On devait pitcher devant des investisseurs tous les vendredis. On nous a appris à faire des pitch decks, à faire un plan financier, à faire un business plan, enfin à faire plein de choses en fait, à trouver les premiers clients. Et c'était vraiment très très pratique, hands-on. Tu vois, vraiment, il fallait faire plein de choses. C'était pas que de la théorie. Et moi, j'apprends comme ça en fait, par l'action. Et j'ai tout absorbé en fait pendant un an et demi. J'ai développé une équipe de 12 personnes. J'ai trouvé des gens dans des autres pays sur internet. Et
c'est toujours les mêmes 12 ou pas ?
Parce que non, c'est des autres personnes.
Ok.
C'est des autres personnes.
12, c'est un chiffre que tu apprécies ?
Oui, apparemment. Ça revient à chaque fois dans les équipes. Et j'ai trouvé des gens dans d'autres pays et j'ai parlé du projet. Ils ont déménagé pour faire partie de la start-up. Et donc, on était dans l'accélérateur de start-up. Au final, 12 personnes. On avait donc, tout ça, c'était financé par l'accélérateur de start-up qui avait fédéré plusieurs investisseurs, en fait, pour les salaires de tout le monde. Et il y a eu un moment... Où en fait, c'est vraiment pas facile. Il y a une équipe, il y a des développeurs de software. Je dois gérer. Après, il y avait. C'était pas vraiment. Enfin, j'étais pas propriétaire du projet en soi, en fait. Non. Donc, je devais à chaque fois rendre des comptes à tout un groupe d'hommes investisseurs beaucoup plus âgés que moi. Moi, j'étais très jeune.
Un board, bien sûr. Ouais.
Qui ont leurs agendas. Et en fait, il y a un moment, ils m'ont proposé un deal. Et tout le monde m'a dit autour de moi, mais comment tu peux refuser un deal pareil ? On m'a dit, bon voilà, maintenant ce projet se développe très bien, on va l'enregistrer en tant qu'entreprise, donc c'est vraiment réel, donc légal, et toi tu auras des parts, pas majoritaires, tu seras CEO, on te paye le salaire que nous on décide en tant que CEO, donc tu n'as pas de risque, et voilà, on t'aide à développer ça. Et sur papier, en gros, pour quelqu'un de mon âge, à ce moment-là...
Tu avais quel âge à ce moment-là ?
À ce moment-là, je devais avoir aux alentours de 24 ans. Et c'était mon premier job, après l'université. Comme j'avais fait médecine, j'avais un petit peu de soi-disant retard. Donc, j'avais fait 2 ans de médecine avant. Donc, pour moi, c'était mon premier job. Je dis, bon, c'est quand même pas mal. Mais je savais pas pourquoi j'ai pas réussi à signer. Et donc, j'ai posé des questions autour de moi et j'étais bloquée, en fait. Mmh. Et j'étais de plus en plus malheureuse. Je sentais la pression. Ils voulaient vraiment que je signe. Il y avait une pression, c'est quand qu'on signe et tout. Il faut vraiment avancer, etc. Et ça, c'était fin 2017. C'est là que j'ai commencé à faire des recherches pour trouver mes premiers coachs. J'ai trouvé une coach business, vie et business, parce que je savais pas comment m'en sortir. Je me sentais bloquée. J'arrivais pas à signer. J'arrivais pas à partir non plus. Donc, c'était vraiment, Et je comprenais pas non plus pourquoi j'arrivais pas à signer ce deal, soi-disant, Mais bon, évidemment qu'après, j'ai compris. C'était pas mon... Enfin, c'était pas... J'allais pas être...
Il y avait carrément un problème de valeur, un problème de vision peut-être, un problème de...
Oui.
Et aussi, quand on est entrepreneur dans l'âme, la liberté, c'est tellement important oui. aussi de pouvoir prendre les décisions,
voilà.
aller dans une direction que l'on sent la bonne, d'instinct, et d'être tenu quelque part par un board qui a un autre agenda que le tien.
Exact.
C'est comme une prison, en fait.
Voilà.
Ça ressemble... C'est une prison un peu dorée. Ouais.
Oui, exactement, c'est ça. Et du coup, oui, j'allais beaucoup apprendre, mais j'ai fait un exercice très puissant avec une des coachs où je me suis imaginée, donc, si je dis oui à ce contrat, on va dire, et je signe tout ça, à quoi je ressemble dans 5-10 ans. Et j'ai vraiment vu ma tête, en fait, de noirceur et de frustration. Oui. J'ai vu dans la visualisation, j'ai dit non, absolument pas. Ça m'a donné la motivation nécessaire pour, en fait, partir. Et c'était début 2018. Où j'avais ma coach, j'étais allée à plusieurs événements de développement personnel où j'avais fait des exercices comme ça. Et là, j'ai dit, enfin, c'était quand même, ça n'a pas bien passé du tout. Après, ils m'ont plus jamais parlé, en fait. J'ai dit, je pars, je quitte du coup mon job, mais en même temps la start-up et en même temps l'équipe de 12 personnes et en même temps les investisseurs. Enfin, il y avait beaucoup de personnes, voilà.
C'est très dur hein, pour quelqu'un d'aussi jeune.
Oui.
Une première expérience, mais en même temps, ça montre une certaine force de caractère et un alignement déjà très tôt. Aller vers le développement personnel si jeune, c'est pas commun. Qu'est-ce qui t'a aiguillé vers ce genre de coaching-là? Parce que c'était pas tellement à la mode avant, je dirais.
Ouais.
Comment tu as trouvé cette dame et quel est le conseil qu'elle t'a donné que tu voudrais nous transmettre qui t'a permis déjà à ce moment-là de prendre une décision aussi difficile?
Et en fait, bon, déjà autour de moi, les gens commençaient à se préoccuper. Ils voyaient bien qu'il y avait un truc qui allait pas, en fait. Et c'est ça qui a commencé à me préoccuper, moi. Parce que moi, je voyais bien que j'étais plus ou moins frustrée après le travail. Je rentrais à la maison, je pleurais dans les transports en commun. J'arrivais même pas à attendre d'être rentrée à la maison. Je pleurais déjà dans ce qui n'est pas vraiment ma personnalité, en fait. De pleurer dans le bus, dans le train et tout. Et je voyais bien qu'il y a un truc qui allait pas, mais bon. Voilà. Mais quand les gens autour de moi ont commencé à me dire, est-ce que tu voudrais pas trouver quelqu'un, voilà, si c'est un psy ou un coach, et j'avais jamais considéré, j'avais jamais travaillé avec un coach. Donc j'ai encore une fois fait des recherches sur internet et j'ai fait, je pense, 3 appels au total avec 3 coachs différents. Et celle-ci, c'était une des coachs. C'est une coach de l'équipe de Tony Robbins. Je sais pas si peut-être
wow.
quelques personnes le connaissent.
Oui. C'est une grosse pointure.
Oui, oui. Et voilà, je connaissais déjà, j'aimais bien son contenu. Et en fait, il a formé plusieurs coachs partout dans le monde ou qui sont formés à ses outils et tout ça. Et tout de suite, j'ai complètement résonné avec ce style-là. Et c'était la coach parfaite pour moi. Et j'ai travaillé en fait avec elle 2 ans en individuel à partir de ce moment-là, fin 2017. Et jusqu'à aujourd'hui, je travaille toujours avec... On a fait une pause de plusieurs années, mais maintenant, je travaille encore avec elle. Elle me connaît tellement bien. Elle est à Dubaï. Et elle est canadienne, mais basée à Dubaï. Et juste, c'est un très bon match. Et en fait, quand on a un bon match avec le bon coach, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, elle m'a donné vraiment les outils concrets pour que moi, je trouve la clarté en moi. C'est pas elle qui m'a dit, tu vas lancer un business de coaching. Non. Oui, c'est pas son rôle à elle. Mais elle m'a donné les outils pour que moi, j'arrive à trouver la clarté en moi très vite. Mais aussi les outils pour que je réorganise mon mindset pour que je retrouve la confiance en moi, en fait. Et elle m'a aussi donné beaucoup, beaucoup de support, ce qui était clé. Et je n'avais presque pas de support autour de moi à ce moment-là. Tout le monde me disait « Non, mais t'es folle, tu dis non. » D'abord, tu dis non à ce deal-là. Après, tu pars du travail, n'importe quoi. Mes parents qui
commençaient à paniquer.
Oui, qui paniquent. Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que c'était un super job et tout. Qui me disent « Ben, on espère bien que tu vas trouver un autre job. » Je dis « Non, mais je vais lancer mon business, en fait. » Et grâce à cette coach, très rapidement, parce que toute seule, je voyais bien que je tournais en rond. En fait, j'ai passé 1 an avant de trouver cette coach à faire des exercices toute seule sur Internet. Voilà, ouais. Méditation gratuite. Enfin, on va pas très loin comme ça, en fait.
Je pense que non.
Non. Et en fait, comme j'avais déjà... En fait, j'en avais un peu marre de tourner en rond. Mais là, ça a complètement accéléré les choses. Et du coup, très vite, en 1 mois, donc j'ai quitté le job. Et le même mois où j'ai arrêté d'aller au travail... j'ai trouvé la clarté parce que j'ai quitté le job sans avoir un plan B. Il n'y avait pas de support financier de qui que ce soit. Mes parents, voilà, ils m'ont dit bon, maintenant tu
c'est ta décision, tu assumes.
Tu assumes. Et j'étais pas mariée, quelqu'un, enfin rien. Il y avait aucun soutien financier et j'avais travaillé pendant 1 an et demi. C'est-à-dire j'ai pas de l'argent de côté que j'ai accumulé pendant 20 ans. Enfin non. Donc, je me suis dit, très bien, bravo
Alix. Mais dans un sens, quand on est jeune, c'est limite moins risqué, tu vois, parce que tu peux toujours te réinventer. Tu perds un job, t'en prends un autre. Enfin, j'ai l'impression que aujourd'hui, à l'heure où on est, enfin, le switch de job en job, c'est plus facile. Mais là, toi, tu t'es mise en tête de lancer
un business
ouais. sans financement, sans, ouais. Sans parachute, ouais. Ni un petit réseau, j'imagine. Mais il fallait tout faire. Et,
oui.
Et tu étais quand même assez jeune, oui. Et sans cofondateur non plus.
Oui.
Comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que c'était les débuts? Comment tu t'es lancée si jeune dans un business de coaching? Et comment tu l'as formulé? Qui étaient tes premiers clients? Enfin, mm-hmm. Explique-nous comment ça se passe à la genèse d'un projet de ce style-là quand on est aussi jeune.
Ben, déjà, en fait, le fait de quitter, et ça je le dis assez souvent, le fait de quitter un job qui me semblait à un moment tellement toxique, où j'y allais, je travaillais H24, même les week-ends, les soirées et tout, j'étais dans un environnement assez toxique en fait, qui me pompait toute mon énergie, juste le fait de partir et de me retrouver tout à coup chez moi dans mon appart aux Pays-Bas, seulement juste de faire ça, j'ai retrouvé plein d'énergie en fait. C'est tout à coup, waouh, mais d'où ça sort toute cette énergie, cette créativité, ces idées? Et ça m'a aussi beaucoup aidé à trouver cette clarté très vite. Et ce même mois où j'ai arrêté d'aller au travail, mais en fait, j'ai décidé, en fait, je vais faire un business de coaching. Et voilà, c'est comme ça. Et j'ai commencé par deux copines où je leur ai dit, voilà, on va tester un truc vite fait. Comme je venais du monde des startups, et c'est quelque chose que j'utilise encore aujourd'hui, je savais que c'est utile de tester les choses très rapidement de façon assez simple et légère, en fait. Le Lean Startup Methodology, c'est vraiment... Ok, on y va, on teste.
Tu as un concept, tu testes le concept,
voilà.
Et c'est par essai-erreur que tu rentres vraiment sur le minimum viable product que tu peux après développer.
Exactement, ouais. C'est ça. Et c'est tellement utile en fait, c'est vraiment une approche tellement légère de voilà, on teste. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai testé avec deux copines où j'étais convaincue. Je savais, parce que j'avais fait un peu de coaching déjà avec cette femme, ça faisait 2 mois, et j'avais fait 2-3 événements de développement personnel. J'étais arrivée assez facilement à savoir que moi, avec mon expérience, donc ce que j'avais fait auparavant, etc., je pouvais aider les femmes à prendre de l'action pour développer leur projet. J'étais sûre que je pouvais faire ça, parce que j'avais fait pour moi-même, je l'avais fait pour plusieurs organisations, enfin voilà. Et du coup, pour ces deux copines, elles avaient des idées, mais c'était flou dans leur tête, elles passaient pas à l'action. Je leur ai dit, je sais que je peux vous aider. Donc c'est devenu une obsession de transformer leur vie. Et on a fait un test assez intense, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs appels par semaine avec chacune d'elles, où je faisais de mon mieux pour transformer leur vie, mais vraiment genre demain quoi, vraiment le plus efficacement possible.
Qu'est-ce que tu appelles transformer? Parce que là on dépasse la sphère du travail.
Oui, mais en fait ce qui s'est passé, elles ont toutes les deux quitté leur job, elles ont toutes les deux lancé leur business, mais ça change tout en fait, parce que du coup là, elles ont commencé à voyager, à organiser des retraites, elles ont augmenté leur revenu, enfin tout change en fait, tu vois. Et je savais qu'on pouvait y arriver, parce que moi j'étais aussi dans le processus, donc je pouvais aussi partager les outils et tout ça. Et donc j'ai fait ce test de façon gratuite, bénévole pour L2, donc j'ai très vite vu que ça marchait, elles étaient très contentes, et du coup c'est elles qui ont commencé à m'envoyer mes premiers clients payants. Ça fait que, en fait, le premier mois de mon business officiel, j'avais déjà triplé mon salaire net, j'avais un salaire de base de 2300 net, un truc comme ça, et puis j'étais à des mois de 6 000 euros, et au bout de cette année-là, 2018, donc c'est moins d'un an, j'étais à des mois de 10 000. Et j'ai dit, heureusement que j'ai eu le courage de quitter ce job. Parce qu'on me disait, c'était un brainwashing, tu vois, on me disait, non, mais tout va s'écrouler dès que tu pars, c'est la folie et tout. Mais en fait, c'est tellement important d'arriver à se faire confiance et de se connecter une version idéale de toi dans le futur. Ce que j'avais fait en quittant mon job, je savais, je l'ai pas dit à mon boss à ce moment-là, je savais qu'une version de moi dans le futur idéale n'avait pas fait la start-up, elle avait fait autre chose. Et j'avais vraiment pleinement confiance en ça. Je savais pas comment exactement, mais je le voyais. Et du coup...
Elle ressemblait à quoi, ton higher self, à ce moment-là, et est-ce qu'elle a évolué aujourd'hui?
Ça reste assez, assez constant, mais il y a vraiment cette sphère de bien-être. Bien-être, beauté... une vie, enfin, alignée avec ses valeurs, où elle peut s'exprimer. Ça, c'est très important pour moi, de pouvoir exprimer ce que j'ai envie de dire, mes pensées, ce que j'apprends. Et je pouvais pas le faire dans cette start-up. Je devais vraiment rentrer dans des cases assez spécifiques. Et maintenant, j'ai ma marque et je peux la faire évoluer comme je veux. Les réseaux sociaux aussi. Je trouve que, en fait, de développer un business aligné avec toi, pour moi, c'est devenu tellement important. Et ça peut être un outil d'expression, en fait, aussi, de ton âme. Ben, je suis là pour une mission et je suis là pour faire quelque chose de spécifique. Et voici l'énergie que je dégage, que je sais que je peux partager de façon positive avec les autres pour les aider. Et de l'exprimer à travers un business aligné avec sa mission de vie, ben, je trouve que c'est tellement beau. Et c'est ce que ben, j'ai décidé de faire à ce moment-là. Et mon futur idéal, elle a surtout créé un impact, ben, le plus d'impact positif autour d'elle possible à travers son travail. Et puis, elle a réussi à aligner en fait sa vie à qui elle est et à ses valeurs en fait. Et elle est vraiment, c'est wealthy wise woman, tu vois. Elle est vraiment très ancrée et très satisfaite, tu vois. Elle dit voilà.
Elle se ressemble de
voilà.
Higher self.
C'est assez courant. Mais oui.
Mais pour ceux qui se posent la question de manière pragmatique, deux clientes qui font du bouche à oreille, un revenu qui commence à se stabiliser de 10 000 euros par mois, comment on passe de ça à une équipe de 12 personnes et un business qui se veut, tu disais j'ai beaucoup de clients francophones, mais qui se veut avoir un impact international aussi.
Oui. En fait, oui, j'ai beaucoup de clients.
Et en combien de temps tout ça s'est fait ?
Ben oui, maintenant ça fait 6 ans. Ouais. Donc en fait, encore une fois, comme ce que j'ai appris dans le monde des startups, c'est learning by doing, c'est vraiment la pratique et de tester en fait. Les deux premières années de mon business, j'ai considéré ça comme un expériment, j'ai testé. Et donc, j'avais pas de designer, j'avais pas de logo, j'avais pas de branding spécifique, j'ai fait un site moi-même, genre comme ça, c'était vert foncé, on sait pas pourquoi, enfin bref. Voilà, j'ai juste, voilà. Et je travaillais avec des hommes et des femmes et j'ai fait des retraites. J'ai fait beaucoup de coaching individuel. Donc, la première année, c'était environ 100 clients individuels. Et la deuxième année, environ 100 clients individuels aussi. Donc, c'est plus ou moins 200 personnes. Et à la fin. Et à la fin. Ouais.
Intense.
Oui, c'était très intense. Ouais. Après, j'ai dû changer le business model parce que j'arrivais plus à suivre, en fait. Mais mon agenda était full. Voilà, c'est. Après ces deux années, j'avais accumulé tout le data de tous les clients. Et j'ai adapté le business. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des groupes, ce qui est beaucoup plus efficace, en fait. Parce qu'au début, je faisais que du coaching individuel. Ce que j'explique assez souvent, c'est que moi, comme je venais du monde des startups et que je savais comment faire un plan financier, etc., ce que j'ai fait dès le début, qui a été tellement clé, j'ai pas juste lancé un produit au pif comme ça, on lance un e-book pour voir ce qui va fonctionner, si ça va prendre. Non, j'ai fait un calcul de comme j'avais pas de support financier, il fallait que moi, je finance ma vie tout de suite. À travers le business. Mais j'avais genre un mois de... Enfin, il fallait absolument que générer les revenus dans le mois suivant. Et donc, j'ai fait une liste. OK, il faut que je paye... Bah, je veux payer ma coach Tony Robbins, qui est quand même... Voilà, je veux payer mes voyages, je veux payer tout ça. Et donc, ça revenait... C'était plus ou moins 6 000 euros par mois dont j'avais besoin, avec les taxes et tout ça, minimum. Et à ce moment-là, c'était OK aux Pays-Bas d'avoir ce revenu. Et donc... J'ai défini mes services en fonction de ça et pas le contraire. Il y a beaucoup de gens, en fait, s'ils font pas le planning financier d'abord, ils se disent, bon, voilà, je vais offrir des séances de coaching à 20 euros ou 50 euros l'heure ou des trucs comme ça. Et c'est très compliqué de financer sa vie si on fait ça. Et c'est beaucoup mieux, c'est ce que je partage partout dans Business School, partout, de commencer par un plan financier d'abord. De combien est-ce que tu as besoin pour vivre déjà, salaire, taxes, savings, investissements, tout compris. Et à partir de là, définir produits, services, etc. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai défini des packs de coaching. J'ai jamais vendu une séance de coaching individuelle comme ça, non, jamais. Même pas au début. J'ai fait des séances gratuites, mais après, j'ai vendu des packs directement. De accompagnement de 1 000 euros ou 1 500, retraite à 2 000 euros. C'est comme ça que j'arrivais à mes mois de 10 000 euros assez facilement. Il y avait que 5 personnes qui s'inscrivaient à ma retraite de 2 000 euros. C'est tout, par mois. Et c'était assez faisable, en fait. Je partageais beaucoup sur les réseaux. Enfin, voilà, j'étais très présente. Je voyageais. J'étais vraiment... je me construisais un réseau en même temps. Donc, et après, mais comme je faisais tout très actif, donc coaching individuel et retraite, c'est beaucoup d'énergie tout le temps, non-stop. Et là, j'ai dit, non, c'est bon, il faut juste changer quelque chose parce que j'ai envie de... Mon futur idéal, elle est beaucoup plus... Elle a beaucoup plus de revenus. Elle n'est pas épuisée comme ça, donc il faut trouver autre chose. Et c'est là que j'ai développé, j'ai commencé à développer mes modules en ligne, mes groupes, Et du coup, là, c'est ce qui fait principalement la Business School, qui est notre programme principal, où en fait, il y a toute une bibliothèque de vidéos en ligne. On a des programmes en groupe, il y a plusieurs groupes. Là, j'en ai 3 en parallèle. Sur l'année, il y en a plusieurs, des groupes. Et ça fait que les personnes, entre les appels, c'est des appels en groupe, et entre les appels en groupe, peuvent regarder les différents modules, planning financier, business model, tout ça. Et donc, ça, c'est autre chose, en fait. Je forme certains coachs dans les groupes francophones et anglophones pour qu'ils fassent le coaching aussi, eux.
Donc, les 12 personnes, c'est les coachs qui travaillent avec toi?
Il y a des coachs, mais il y a aussi... Alors, j'ai mon assistante depuis 5 ans maintenant, qui fait tout... behind the scenes, elle a mes logins pour tout, en fait. Donc, elle gère s'il faut intégrer certains trucs, certains détails pour les cours en ligne. Donc, tout ce qui est la création technique des cours en ligne, moi, je comprends pas grand-chose. Donc, c'est pas moi qui fais ça. Et de trouver différentes plateformes pour différents cours. Enfin, voilà, tout ce côté... Enfin, quand on crée un business en ligne...
Tout le back-office.
Voilà, tout le back-office. Évidemment que j'ai une agence de comptabilité, tout ça. Et après, il y a une personne qui fait le copywriting des textes. Du site, et ça évolue de temps en temps. J'ai besoin de personnes additionnelles parce que pour les photoshoots par exemple, alors il y a plusieurs photographes et maquilleuses et stylistes avec lesquels je travaille régulièrement, et ça fait beaucoup de l'identité visuelle en fait. Il y a le graphic designer, enfin voilà, c'est toutes des personnes en fait qui, au fur et à mesure de l'année, on fait des mises à jour plusieurs fois par an sur l'école en ligne principalement, et en fait ces personnes doivent venir rajouter copywriting, design, tout ça.
D'accord.
Donc
voilà. Et pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ton travail, moi, pour être honnête, comment est-ce que j'ai découvert ton travail? C'est sur Instagram, je pense, c'est Marie Guérin qui a fait une petite story en disant « Les filles, cette année, en 2024, il est temps qu'on parle d'argent. » J'ai eu la grande joie d'assister à une conférence donnée par Alix et elle m'a conseillé tel livre. Et dans les commentaires, tu rajoutais des livres. Et je me suis dit, waouh, elle a l'air de savoir de quoi elle parle. J'ai été voir ton profil. Et c'est là, de fil en aiguille, que je me suis dit, mais il faut absolument que je l'invite sur le podcast. Parce que la question de l'argent est une question avec laquelle les femmes ont encore un peu de mal. Et je pense que c'est aussi un outil tellement important pour l'indépendance, pour évoluer, pour créer la vie dont on rêve. C'est important de maîtriser un peu ces codes-là aussi. Et qu'est-ce que tu vois auprès de tes clientes par rapport à cette question de l'argent? Parce que tu nous dis, on a des modules business plan, business financier, business plan, planning financier et budgeting. Qu'est-ce que toi tu vois quand tu commences les coachings avec en général tes clientes?
La plupart du temps, les femmes qui me contactent, même les hommes en fait, n'ont jamais fait de planning financier. Donc, ils veulent lancer une activité où ils veulent améliorer leur relation à l'argent, où ils veulent développer leur revenu et leur business, et ils n'ont pas un plan de trésorerie. C'est ce que... Non.
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 Ok.
Je suis contente que tu sois choquée. Ça veut dire que toi, tu en as un, c'est ça?
Oui, mais moi, je viens de la finance.
Ok. Génial. oui, c'est important.
Okay. Oui, c'est important. Clé. Et puis, ça te permet de, justement... mieux visualiser de quoi demain sera fait, de prendre les bonnes décisions,
oui.
Et surtout de te mettre à l'abri des pépins.
Tu vois? Voilà, oui. Et en fait, moi, ça me choque, mais c'est tellement indispensable parce que, évidemment, j'ai vu les conséquences de ne pas... Bon, la première année, par exemple, du business, j'ai fait 5 retraites dans des hôtels de luxe 5 étoiles. Ça veut dire qu'il faut avancer beaucoup d'argent pour réserver l'hôtel. Ça veut dire que la trésorerie, elle est clé. Il faut absolument bien calculer que suffisamment de gens s'inscrivent à l'avance pour pouvoir bloquer le... Enfin, bref, c'est tout des questions de trésorerie. Et donc, j'ai très vite vu, non, il faut absolument que ça soit sain et que le cash flow, dans le monde des startups, ils parlaient que c'est l'oxygène du business, en fait. Cash in, c'est comme si on respire, tu vois.
Oui.
Et c'est indispensable. S'il n'y a pas de cash in, il n'y a pas d'oxygène qui rentre, le business, il est mort.
Et en fait, je suis contente qu'on aborde cette question-là parce que le cash-in, c'est pas forcément de l'argent qu'on va injecter à un moment donné. C'est dès le départ se donner un peu d'espace et d'oxygène pour pouvoir construire le business.
Oui.
Et il y a beaucoup de, surtout dans le monde de la mode, parce que c'est celui que je côtoie beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de dépenses qui sont faites dans l'espoir que la collection va se vendre ou dans l'espoir que.
Ouais.
Et je pense que c'est important de changer de shifter,
ouais.
Et de se dire oui, je peux faire des belles collections, des beaux shoots, etc. mais qu'est-ce que j'ai mis de côté si jamais ça ne se vend pas comme je voulais.
Oui,
comment je fais pour rebondir avec une petite enveloppe de côté pour moi. Oui. Et voilà. Donc.
C'est ça. C'est clé, en fait.
C'est clé, ouais. Oui.
Et c'est ce que j'explique dans le... Donc, la thématique principale, c'est le planning financier. J'ai fait plusieurs, c'est la masterclass que j'ai fait plein de fois, la seule masterclass que j'ai fait à plusieurs reprises l'année passée, dont au Elle Active Forum, dont Marie Guérin était là. Et après, elle m'a envoyé des messages. Waouh, voilà. j'ai pris rendez-vous avec ma banque et tout. Enfin, c'était, voilà.
Tu peux nous faire un résumé dans les grandes lignes de, oui, du message que tu as transmis à ce moment-là ou que, oui, tu partages?
En fait, bon, c'est un fichier Excel que j'explique comment le remplir. C'est très pratique et chaque personne reçoit sa propre copie. Et après, je les invite à avoir de façon hebdomadaire une date with money, donc un rendez-vous avec l'argent, et d'avoir un rappel dans leur agenda. Moi, maintenant, j'ai pris l'habitude, je le fais même plusieurs fois par semaine, en fait, où c'est ouvrir le planning financier, la trésorerie, le fichier Excel que je leur explique comment remplir. Il y a plusieurs onglets, donc il y a un onglet par compte en banque, donc compte en banque perso, carte de crédit perso, compte en banque pro, carte de crédit pro, etc. Et donc, un onglet par compte en banque, et donc la date with money, une fois par semaine, l'idée, c'est d'ouvrir son Excel sur son planificateur sur son ordinateur et d'ouvrir avec son téléphone les applications bancaires et de voir qu'est-ce qui s'est passé cash in cash out dans mes comptes la dernière semaine et de tout noter, en fait. Et en fait, ça fait qu'on est confronté à son comportement par rapport à l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent ne pas le voir, ne pas savoir, ah, j'ai dépensé tel et tel dans Uber Eats ou quelque chose, ou enfin voilà. Et ça nous confronte à vraiment ce qu'on fait, toutes les actions qu'on prend, le cash in, cash out, et de le mettre à jour, c'est ok, en fait, réellement, je dépense X argent en vêtements tous les mois, par exemple. Ou moi, par exemple, comme j'aime pas cuisiner, ben, j'ai remarqué que je dépensais beaucoup trop, à ma façon de voir, sur Uber Eats. C'était beaucoup plus facile pour moi. Et après, j'ai vu, mais en fait, c'est pas aligné avec mes valeurs. Déjà, c'est pas l'option la plus saine. C'est vrai que ça prend moins de temps, mais ça n'a rien à voir, en fait, le budget. Donc, ça nous permet d'ajuster, en fait, de mettre à jour ce planificateur financier, que ce soit pour le côté pro ou perso, d'ajuster petit à petit les budgets, de l'argent qu'on met de côté, de l'argent qu'on met pour les investissements, si on veut, de ce qu'on dépense, etc. Et pour le côté pro, c'est là que c'est clé pour les personnes qui veulent développer une activité ou ou augmenter les revenus d'une activité existante, c'est qu'on va faire un plan de toutes les dépenses, c'est clé, de toutes les dépenses qui vont arriver pour si on va être indépendante ou indépendante complémentaire ou en société. Et ce qu'on va payer en cotisation sociale, en comptable, en tout ça, ça va varier en fonction des revenus. Donc par exemple, moi quand j'étais indépendante, j'avais un pack spécifique avec le comptable et dès que je suis passée en société... Ça augmente, en fait. Et en fait, moi, ça me sidère que quand on enregistre une entreprise ou un business ou quand on s'enregistre en tant qu'indépendante, il n'y ait pas de formation obligatoire pour ça, en fait. Parce que la plupart des gens, ils savent pas, ils ont pas l'éducation pour faire ce genre de planification. Et après, ça crée des problèmes si on le fait pas, en fait. Vraiment des problèmes sérieux.
Des angoisses, ouais, dans ton business où j'en connais tellement de créateurs qui... ou d'entrepreneurs qui reçoivent leurs visas ou certaines enveloppes et qui ne les ouvrent pas, en fait. Mm-hmm. Parce que, justement, ils sont tellement focalisés sur « je dois vendre, je dois créer, je dois... » que la question de comment je maîtrise, je contrôle les rentrées et les sorties d'argent devient presque anxiogène.
Oui.
Parce qu'il n'y a peut-être pas assez ou, ouais, qui sait, je vais manifester cet argent, il va arriver le mois prochain. Enfin, il y a un flou.
Oui.
Et d'où est-ce que ça vient, en fait, globalement, ce comportement d'avoir peur de regarder droit dans les yeux ce qui se passe sur nos comptes en banque et l'argent dont on dispose?
Moi, je pense qu'il y a un manque d'éducation financière déjà qui devrait être infusé, je pense déjà pendant l'école secondaire minimum, en fait, au plus tard. Mais il y a un manque d'éducation financière. Moi, je pense qu'à niveau sociétal, ça, c'est ma façon de voir les choses, mais c'est plus intéressant pour les gouvernements de développer des gens qui ne sont pas nécessairement financièrement éduqués et qui travaillent pour les boîtes et qui sont des esclaves du système, en gros, et qui n'ont pas ces capacités à développer une liberté financière. Et c'est pour ça que cette éducation financière n'est pas vraiment présente, en fait. Et alors que c'est clé, c'est presque un acte rebelle. Et en fait, comme on n'est pas éduqué, donc c'est difficile de comprendre tout ça, etc. Mais en fait, les gens, comme ils n'ont pas l'information, mais du coup, ils sont pas sûrs. Mais du coup, ça fait un peu peur de regarder tout ça, parce que je sais pas ce qu'il faut faire déjà. Je me sens pas compétent. Et comme j'ai jamais appris, ben je gère pas bien mon budget, ben du coup quand je check, ben évidemment que c'est pas optimisé parce que j'ai jamais fait le travail en fait. Et je leur dis toujours, je leur donne même des outils parce que beaucoup de personnes ont une réaction de stress dans le système nerveux en fait quand ils commencent pour la première fois à remplir un planning financier, et je dois leur donner des outils pour se calmer en fait, pour ouais. Et une fois que c'est ok, donc on le fait semaine par semaine, ça devient mon idée, c'est que ça devienne un jeu en fait, où au moins tu as appris les règles du jeu maintenant, tu sais comment jouer, tu sais comment optimiser, et je leur dis toujours, il vaut mieux savoir comment faire ça dès le début. C'est mon premier module. Dès le début, on fait le planning financier, et après on va parler des offres. Mais les gens souvent, ils me posent la question, comment je trouve des clients? D'abord, on fait le planning financier, après on réfléchit au business model sur base du planning financier. Après, on crée les offres. Et après, on peut mettre en place le branding, tu vois, de présenter les offres sur le site, ce genre de choses, pour vraiment augmenter la valeur perçue des offres. Et après, on fait des tests. Et peut-être qu'on n'a même pas besoin de chercher des clients après toutes ces étapes, en fait, parce que tu t'es aligné avec quelque chose de premium qui est vraiment bien réfléchi. C'est l'ordre dans lequel, je fais les choses dans la business school. Et c'est juste super important, voilà, d'avoir ce check régulier, en fait, avec les finances. Ouais.
Et après les finances, c'est quoi le deuxième problème que tu vois souvent et les clés que tu apportes à tes clients?
Alors, la deuxième thématique qui est clé, souvent, parce que la plupart des personnes, c'est des femmes qui viennent vers moi, c'est une peur qui est presque irrationnelle de s'exprimer. De se montrer, de se...
J'ai l'impression que tu me parles.
Mais en fait, comme ça revient tellement souvent, j'ai créé des cours autour de ça aussi, mais c'est le chakra de la gorge, en fait, et celui-là, le plexus solaire, en fait, de pouvoir s'exprimer, briller. Ça, c'est briller. Et ici, c'est s'exprimer. Et je pense que moi, personnellement, comme j'ai eu tellement de problèmes avec la maladie auto-immune que j'ai eue, c'est la gorge, en fait, qui c'est ma propre thyroïde qui est ici dans la gorge, qui s'attaquait elle-même. Et donc c'est comme si en fait je coupais ma propre voix en fait, symboliquement. Je faisais du chant à ce moment-là quand j'étais adolescente, j'ai arrêté le chant, j'ai perdu ma voix soi-disant, et en fait j'ai fait tout un processus de me retrouver moi-même, de reprendre en fait ma vie en main et de me reconstruire, etc. Je sais pas si c'est en lien, je pense.
Je suis sûre que c'est en lien, parce que moi l'année dernière, on a enlevé la mienne.
Ah bon ouais. Le thyroïde?
Ouais, et depuis qu'on l'a enlevé, je suis beaucoup plus prolixe, j'arrive beaucoup plus facilement à m'exprimer,
wow.
Je suis beaucoup plus à l'aise, c'est beaucoup plus fluide également, mais j'ai eu vraiment tout un épisode
wow.
Où, oui, j'avais peur de pas récupérer ma voix après l'opération, mais une fois que c'est fait et que tu prends le temps, ben, ça libère en fait, comme tu dis, t'as l'impression que c'est de l'ordre énergétique,
oui.
Que ce nœud... avec lequel tu vivais, bah, tu ne l'as plus.
C'est ça. Waouh, je ne savais pas qu'on t'avait enlevé. Ouais. Ok, ben, ouais, autre chose en commun. Ouais.
Oui.
Ouais. Ben, du coup.
Mais du coup, enfin, j'imagine que tes clients n'ont pas tous des problèmes de santé liés à la thyroïde ou au plexus.
Mais il y a cette symbolique de, surtout en tant que femme, oser s'exprimer et oser briller. Et après, comme j'inclus. Bon. Ça, c'est le côté un peu plus spirituel, subconscient. J'inclus de plus en plus dans mon travail des outils pour reprogrammer le subconscient. Certaines des séances que je fais, c'est de parler au subconscient de la personne et de voir d'où vient ce blocage. Et en fait, quasiment toutes les femmes avec lesquelles je travaille ont ce blocage de « non, j'ai peur ». Une peur, je ne sais pas d'où ça vient, de parler, de me montrer. Oui, c'est viscéral. Et quand on demande au subconscient, quasiment toutes les femmes avec lesquelles je travaille se parlent, mais de façon elles sont conscientes, mais c'est le subconscient qui parle, en fait, où tout à coup, elles ont des mémoires de vie antérieure ou de génération antérieure, où il y a eu, par exemple, toute la thématique de chasse aux sorcières, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé et qui, en fait, se transmet ce traumatisme à travers les générations de façon génétique, et c'est des mémoires en fait, transgénérationnelles. Il y a beaucoup de femmes qui ont ces mémoires de, dans le passé, il y a une femme comme moi qui a brillé, qui a osé montrer ses super pouvoirs, qui a osé être elle et qui a été, c'est assez violent en fait les mémoires qu'elle me raconte en fait, qui a été brûlée ou des choses comme ça en fait. Et ce genre de choses revient beaucoup et pourtant, c'est pas un focus pour moi dans mon travail, mais ça revient toutes les semaines dans ce que je fais.
Toutes les semaines.
Ouais. Ouais.
Maintenant qu'on parle, plus on avance dans la discussion, plus je me rends compte que ce qui rend ton coaching vraiment unique, c'est qu'il est vraiment holistique. Mmh. Je parlais de cerveau gauche, cerveau droit, mais ça va au-delà, en fait. Tu pars du concret et tu vas vraiment dans le spirituel et tu essayes d'aider les personnes à être beaucoup plus alignées, d'aller chercher des déclics là où il y a des blocages. Mmh. Est-ce que c'est ton histoire personnelle et tous les coachs que tu as pu rencontrer qui t'ont donné des outils, ou est-ce que tu as eu une formation bien spécifique pour aller vraiment de ce côté-là également du coaching et du développement personnel?
Je pense qu'en fait, je dis toujours qu'il faut faire le travail sur soi d'abord pour après pouvoir aider les autres. Et comme j'ai beaucoup investi, enfin, j'ai travaillé avec beaucoup de coachs, de mentors, de chamans, d'énergéticiens, de personnes. Enfin, au fur et à mesure des questions que j'avais, j'ai trouvé des personnes sont apparues sur mon chemin. Et au fur et à mesure de ça, je pense que on se découvre soi-même. On s'autorise à se découvrir et à voir qui on est, etc. Mais ça me donne des pistes pour toujours continuer à faire des expériments et tester des choses, et ça fait évoluer ma marque. C'est toujours en évolution. Je pense que ça va toujours l'être, c'est jamais fixe. Et je pense vraiment, en tout cas aujourd'hui, que pour moi, ce qui est super important, ce que je fais avec mes clientes, elles viennent vers moi pour non, je veux plus de revenus en fait. Mais ce qu'on fait vraiment, c'est pour moi, c'est un travail vraiment profond, presque karmique, où ces femmes-là, elles ont été empêchées, ou des personnes de leur famille, de leur lignée ont été empêchées, surtout des femmes dans le passé, et elles sont là pour vraiment transmuter ça. Et ensemble, c'est ce qu'on fait, on libère des choses, des mémoires traumatisantes du subconscient, pour qu'elles puissent vraiment exprimer, mais en fait, leur mission de vie, dans cette vie, et mais en fait, se mettre au service de ce monde, à travers ce qu'elles sont censées vraiment venues faire dans ce monde, en fait. Et ça, en fait, c'est très cool de le dire comme ça sur les réseaux, live your purpose et tout ça, mais vraiment le faire, c'est un travail vraiment profond, en fait.
Oui, très profond, ouais. Oui. C'est arriver et accepter de se confronter,
oui,
aux zones d'ombre qui sont en nous, et aussi dépasser les peurs. Moi, dernièrement, ce que j'ai appris sur ce chemin-là du développement personnel, c'est que la clé, c'est l'amour. Une fois que tu as trouvé où sont les nœuds, avoir cet amour pour toi, l'amour que tu es capable de donner aux autres que tu apprécies et que tu aimes, de te le donner à toi-même au centuple. Parce qu'une fois que tu es bienveillant envers toi-même, il y a de la lumière en fait, qui irradie de toi et qui te permet vraiment d'aller beaucoup plus loin et de trouver cet alignement.
Oui, ouais. Absolument. Oui, absolument. Et je trouve que c'est trop beau. Enfin, c'est vraiment magnifique comme processus. Je dis toujours que pour moi, c'est comme la meilleure série télé ou le meilleur film que je vois. En fait, c'est épisode après épisode où je vois, en fait, tu vois, il y a moi, il y a toutes les personnes autour de moi, enfin, mais il y a mes clientes, tu vois, où elles, waouh, on a libéré ça, enfin, il y a des, enfin, c'est une transformation magnifique qui se fait. Et je crois vraiment que c'est un impact sur plein de personnes autour d'elles, en fait, ça impacte. J'ai beaucoup de clientes, plus ou moins de mon âge, qui sont enceintes. Mmh. On fait ces libérations, ça fait que ça libère aussi le bébé qui va naître,
oui,
de tout ça. Parce que le subconscient, scientifiquement, du bébé, il est là, il absorbe tout, même déjà dans le ventre de la mère. Donc si la mère, elle a un trauma, elle est fâchée, etc., le subconscient du bébé l'absorbe directement, sans filtre, comme une éponge, jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est là qu'on développe un filtre, etc. Et en fait, le fait de libérer tout ça, mais c'est énorme parce que ça fait que le bébé, du coup, il ne devra pas faire... au moins, c'est quelque chose qu'il ne devra pas travailler, tu vois, nécessairement en profondeur, tu vois.
Donc, comment tu attires tes clientes ou tes clients? Parce que ton discours, bon, maintenant, les mœurs, enfin, ça évolue de plus en plus, donc les gens sont beaucoup plus à l'aise à l'idée d'écouter ce genre de pratique. Mais comment est-ce que tu les attires? On est avec ton projet holistique, mm-hmm, qui devient un hero journey, parce que tu vas les emmener très très loin dans la confrontation et dans l'effort de se libérer de certaines choses. Mm-hmm. Comment est-ce que tu mets en avant tes offres et qu'est-ce que tu mets le plus en avant pour attirer les bonnes personnes?
Très bonne question, parce que en fait...
c'est le plus difficile, hein.
Mais pour l'instant, en fait, c'est pour le nombre de clients et le chiffre d'affaires de la société, je fais vraiment pas beaucoup de promotion. J'ai, en fait, au début, j'ai beaucoup hustle. J'ai, oui, beaucoup voyagé, je suis allée à beaucoup d'événements, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai créé beaucoup de relations. Et en fait, maintenant, ça n'a rien à voir, en tout cas, même si ça reste, voilà, je reste quand même, enfin voilà, il y a une équipe et tout ça, c'est quand même actif, mais c'est beaucoup plus posé et ancré qu'avant. Et en fait, Par exemple, l'année passée, on a fait une masterclass gratuite par mois, par exemple. Ça, c'est une façon... Enfin, les gens ont l'opportunité de me connaître en live, en direct. C'est des masterclass sur Zoom. Les gens viennent parfois une, deux, trois masterclass et après décident de s'inscrire à la Business School. Après, on m'invite, en fait. Par exemple, j'ai fait les masterclass Planning Financier au Elactive Forum. The Nine, c'est le club aussi. C'est un clubhouse à Bruxelles. Je sais pas, il y a des endroits où... Ça fait partie... Bon, je sais pas si tu as regardé ton Human Design, mais...
Je pense que oui, je l'avais fait il y a un an, je crois, mm-hmm. et moi, c'était plus l'intuition, en fait. C'est ne pas aller chercher les choses, voilà. Laisser les choses venir à toi.
Ouais, c'est
ouais,
ça.
C'était plus ça, mais ouais. Je sais pas si
c'est... Tu te souviens pas du type de
Human Design. Dis-moi les types.
Il y a projecteur, il y a manifesteur, il y a générateur et manifesting generator.
Je crois que c'était manifesting generator.
Ok. Bon, mais ça, c'est des outils que j'utilise pour mes clients et pour moi. Et en fait, ça définit vraiment, ça peut vraiment aider pour créer des stratégies très alignées de comment attirer les clients. Et comme toi, probablement, moi, je ne suis pas censée aller pousser, chercher, enfin, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je préfère développer ma marque, mon identité visuelle, m'exprimer à travers les photoshoots et ce que je fais, enfin la création de l'identité de marque et tout ça. Et ça magnétise les bonnes personnes. Ils comprennent que même si je parle de planning financier, il y a quand même un côté magique dans ce que je dégage. Il y a quand même un côté, ils le sentent en fait, à travers l'identité visuelle aussi. Et voilà, mais il y a pas, tu vois, il y a des gens qui ont des... Je sais pas, une équipe de 20 personnes qui est genre H24 à faire des Facebook ads, des choses comme ça. Genre, j'ai pas ça, moi. Pour l'instant, j'ai pas utilisé de publicité Facebook pour attirer des clients. Enfin, c'est tout word of mouth. Mais j'ai aussi des affiliés. Et ça marche très bien. Il y a des personnes, on a un programme d'affiliation, donc il y a des commissions pour... si les gens viennent à travers une personne, ils ont des commissions. Et à la fin du mois, je paye en fait mes affiliés. Je suis très contente de les payer. Keep it coming, tu vois. Donc voilà, c'est certaines façons, mais ça varie avec le temps. Au début, j'étais aux Pays-Bas. Après, j'étais nomade digital, tu vois. Donc, j'ai voyagé un peu partout dans le monde, donc... Ça dépend d'où je suis, ça varie. Pendant 6 ans, il y a eu beaucoup d'étapes dans ce business. Donc, je ne suis pas accrochée à une façon de faire les choses. Et pour l'instant, voilà, c'est ce qu'on fait, en fait. Voilà. Mais j'ai une très bonne communauté à Bruxelles maintenant, oui.
Ouais, ouais. Mm-hmm. Et dis-moi, dans cette aventure, quels sont les moments mémorables qui t'ont vraiment marqué, où tu te dis, là, j'ai trouvé ma voie, je suis à ma place? Est-ce que tu pourrais partager un moment avec nous ou une anecdote qui t'a conforté dans l'idée que tu es à ta place?
Que je suis à ma place. Moi, je pense que c'est quand je me connecte, en méditation, je fais de la respiration aussi et je me connecte à mes guides, à mon higher self, à mon futur idéal. Je vois, en fait, j'ai des images, en fait, et on peut entendre des messages de cette guidance, en fait, des messages rassurants. Et c'est dans ces moments-là, en général, où en fait, je suis certaine. C'est même quand j'ai quitté mon job et j'avais pas de plan B, j'étais certaine qu'il fallait le faire. J'avais peur, voilà, etc. Mais c'est vraiment, elle me guide, en fait, cette version de moi dans le futur. Je suis vraiment connectée à elle. Et presque tous les jours, je me pose la question, est-ce qu'elle dit oui à ça, elle? Est-ce qu'elle a dit oui à ça? Est-ce que, tu vois, qu'est-ce qu'elle a... Enfin, tu vois, je me connecte parce qu'elle est beaucoup... Enfin, elle est dans le futur, en fait. Et donc, je sens son assurance et son expérience. Et parfois, quand je doute, je dis, en fait, elle n'a pas du tout douté à ce sujet, en fait. Et c'est, pour moi, c'est une connexion très importante. C'est une relation qu'on construit et qu'on peut développer et renforcer. Et ça me guide. Et en fait, quand je me connecte, ben, je sais, you're on the right path, tu vois. Ou je sais quelle est le next move, la direction à prendre. C'est quelque chose de continu. Bien sûr qu'il y a eu plein de moments dans ces 6 ans, tu vois. À chaque fois que je fais une retraite ou un événement, ou à chaque fois que je vois la transformation devant mes yeux d'une personne, d'un client, ça c'est tellement juste. C'est magique à chaque fois, en fait, peu importe la personne. Ou tu vois, après des libérations qu'on fait, même mes clients hommes, ils sont ouverts à ça. Chef d'entreprise et tout, assez rationnel. Et après, il me raconte des anecdotes de fou où, par exemple, il y a un frère qui ne parlait pas pendant des années, qui, après une libération comme ça, qui est très profonde, karmique, etc., qui tout à coup parle juste pour le remercier parce qu'il a senti une libération, par exemple, des choses comme ça. Et mes clients me disent des choses, enfin, je dis, ouais, mais c'est incroyable ce qu'on fait. Ces libérations, c'est magnifique. Et puis, les clientes bah, qui développent leurs business babies, comme je dis, enfin, elles lancent des business et les business grandissent. Et elles ont leurs clients, elles sont reconnaissantes. Enfin, c'est de la magie, je trouve. C'est très beau. Donc.
De l'autre côté de la médaille, est-ce que il y a eu des moments où tu t'es où ça n'allait pas, où tu t'es dit, enfin où c'était plus dur, et comment tu t'en es sortie? Ou est-ce qu'il y en a pas eu pendant ces 6 ans? J'en doute.
Non, jamais. Entrepreneuriat, fleuve tranquille, bien sûr. C'est quoi les challenges?
Non, fleuve tranquille.
Non, bien sûr qu'il y a des challenges. Il y a des challenges tout le temps.
Quel ordre? Quels sont ceux qui t'ont le plus déstabilisé, qui t'ont le plus secoué ou remis en question?
Moi, je pense qu'il y a le côté tout ce qui est genre business. En fait, il y a une phrase, c'est Alex Hormozi, je ne sais pas si tu le connais, mais qui dit toujours the goal of business is to stay in business. Genre, c'est vraiment la clé. Si tu as toujours un business qui fonctionne, qui est viable, tu as déjà gagné, en fait. Et parfois, c'est pas évident. Tous les business owners de plus de, je dirais, 4 ou 5 ans, je pense qu'ils sont d'accord que c'est pas évident juste de maintenir un business.
Non. Les débuts sont plus faciles, limite que.
Oui.
Garder oui. Le cap et être là sur la longueur. Ouais.
Au début, on a une chance peut-être de débutant, tu vois, il y a des choses qui se mettent en place, on a l'énergie, on est un peu naïf, hein, on ne se rend pas compte des risques, tout ça. Mais après, vraiment, en fait, de pouvoir... Alors pour moi, mon objectif, c'était de développer les revenus et le business, mais de aussi que moi... The more I grow, the more I glow. En fait, de plus en plus me sentir bien, en bonne santé, tu vois, et tout ça. Et c'est très très joli comme phrase, et dans la pratique c'est très compliqué à mettre en pratique, en fait, tu vois, de dire waouh, mais comment je fais pour pas faire un burn-out, en fait, tu vois, et vraiment développer le business. J'en vois tellement, mais c'est tellement courant, même des business qui arrivent à 1 million, plusieurs millions de chiffre d'affaires annuel, mais tu vois bien que le dirigeant, il est complètement, genre, son corps, il est en train de, enfin, tu vois, ça se voit. Et moi, j'ai dit non, je suis déjà passée par ces challenges d'être à l'hôpital pendant 3 ans, genre, c'est hors de question que je me retrouve dans une situation pareille. Donc pour moi, c'était clé. Et heureusement, il n'y a pas eu de burn-out. Et parfois, je montre des photos de quand j'ai commencé et maintenant, et c'est vraiment une apparence physique complètement différente. Genre, je me sens beaucoup mieux maintenant qu'au début. Mais ça, c'est vraiment pas facile. Il faut vraiment s'accrocher et vraiment apprendre à mettre des limites. Il faut être, je pense, très... Il faut avoir de la persévérance, ne jamais lâcher. Il faut être super resourceful, donc trouver des solutions constamment, d'être très créatif. Et c'est vraiment pas donné, franchement. Parce que mon objectif, le chiffre d'affaires de ma société continue à doubler, augmenter d'année en année. C'est monté pour 6 figures, je dis toujours. Donc, on a dépassé les 200 000 par an. Et je veux continuer, mais je veux pas continuer à n'importe quel prix.
Merci.
Mais je veux pas continuer à n'importe quel prix, en fait, tu vois, parce que je veux pas me mettre en trop de stress. Donc, c'est toujours cette danse, tu vois, délicate de dire, OK, ben, enfin, voilà, là, oui, on peut augmenter de cette façon les revenus. Est-ce que ça va me prendre plus d'énergie, plus de temps? Et si je vois que j'ai pas la capacité, c'est pas le truc que je vais développer, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on met en place plein de, voilà, maintenant on va lancer une membership. Donc on met en place plusieurs choses pour que ça soit efficace et bien organisé. Et ça veut dire aussi qu'il y a plein de trial and error, il y a plein de choses qu'on essaie qui marchent pas. Donc il faut vraiment, je le dis toujours à l'intérieur de ma business school, heureusement que j'ai passé 1 an et demi dans le monde des startups où j'ai absorbé tout ce qu'on m'a dit d'entrepreneur déjà, avec beaucoup d'expérience, Et sur le moment c'était assez violent de tout absorber, assez tellement rapidement, tellement de input de tellement de gens comme ça, c'était un peu voilà, mais c'est resté en fait et c'est très utile. Et j'ai vraiment gardé cet esprit de genre « don't quit » et juste teste plein de choses, parce que 90% des choses que tu vas tester ne vont pas fonctionner. Oui. Donc, il faut avoir la force et la capacité de faire tout ça, parce que tu sais qu'il faut le faire pour arriver à ce qui fonctionne, en fait.
Et surtout, ne plus... Parce que moi, l'erreur que je faisais, c'est la marque à mon nom, donc il y a une certaine... Tu ne fais pas une dissociation entre le business et la personne.
Oui.
Mais je pense qu'à un moment donné, il faut oublier le côté trop émotionnel quand tu es dans le test. Et effectivement, comme tu disais, il y aura 90% des cas où c'est pas le, ça va pas fonctionner, mais c'est pas grave, ça ne remet pas en question ta propre valeur.
Ouais.
Et c'est justement parce que tu es plein de ressources que tu persévères, que tu testes, que, ouais. que tu finalement, il y a le clic qui se met en place,
oui.
et que tu déverrouilles ce qui bloquait, et finalement que tu peux vraiment avancer.
Ouais. Oui, exactement, c'est ça. Et ça, c'est... Il y a le côté émotionnel, énergétique, il faut avoir la capacité mentale de trouver les solutions, il faut savoir recevoir tout le, ben, toutes les déceptions de ce qui ne marche pas. Enfin, il faut vraiment, je pense, être fort en fait, mmh. et avoir cette capacité, ou le voir comme un jeu aussi. C'est ce qu'on apprend aussi dans le monde des startups, de dire, bon voilà, genre, don't take it personally, de ne pas le prendre, tu vas avoir des noms. Ok, c'est juste des data points, en fait, c'est juste des data qui te revient vers toi, qui est utile pour après optimiser pour la suite en fait. Mmh. Donc, je pense que ça, franchement, c'est vraiment pas facile. Et je pense aussi, j'ai eu tout un... Mais comme j'ai commencé, beaucoup de personnes parlent d'éveil et spirituel, j'ai toujours été assez sensible et un peu spirituelle, mais pas autant qu'aujourd'hui. Et en fait, ce qui s'est passé aussi pendant que je développais mon business, comme je faisais du travail sur moi, mais j'avais de plus en plus de prise de conscience. Et du coup, c'était aussi une période très difficile, surtout 2019. J'en ai beaucoup parlé sur les réseaux. Où tout à coup, j'ai compris plein de choses sur ma famille, sur mon passé et tout, que je ne savais pas ou que mon cerveau avait juste filtré. Et tout à coup, d'apprendre tout ça, c'était un choc assez... Et j'ai compris pourquoi j'avais eu ça... Enfin, le corps parle, en fait. Donc, j'avais intériorisé des traumas, en fait. Normal, il y a beaucoup de personnes qui passent par ça. Et donc, c'est tout ça m'est venu en un coup, alors que j'en étais pas vraiment consciente ou c'était pas aussi clair. Donc en faisant ce travail personnel, ce que je fais avec mes clients, il y a, quand on ouvre la boîte de Pandore, en fait il y a des choses qui commencent à sortir et il faut savoir les encaisser aussi, il faut savoir les gérer, les libérer, et donc ça c'était très compliqué pour moi aussi. Donc c'est un travail plus personnel, mais qui fait partie de ce processus de live your purpose. Ben voilà, c'est quoi ton purpose, qui tu es, quel est ton passé, comment tu fais du travail sur toi, comment tu libères les choses. Et quand tu libères les choses, ben c'est pas un long fleuve tranquille. Enfin, c'est vraiment parfois très difficile, mais ça fait partie, je pense, du côté alchimique du processus où, ben en fait, c'est se confronter à soi-même, faire des libérations, laisser certaines choses. Et je pense qu'on est meilleur coach, en tout cas, si on sait ce que c'est de faire vraiment, vraiment ce travail, de pas juste en surface. Et on a beaucoup plus d'empathie et de capacité à aider les autres, je pense. Donc ça, c'était aussi un élément très difficile qui a fait que il y avait un moment où c'était pas évident de faire mes appels en 2019, tout ça, mais en même temps, c'était une bonne distraction. Donc, je traversais un moment assez traumatique.
Tu peux en parler dans les détails ou pas forcément? Je sais pas ce que tu as dit sur les réseaux. J'ai pas été jusque creuser ça, mais...
Mais en fait, alors, c'est juste que je pense que chaque famille a ses propres dynamiques, mais moi, je me suis rendu compte de dynamiques assez spécifiques, sans rentrer trop dans les détails, parce que je suis pas...
C'est personnel aussi, oui.
Mais il y avait certaines dynamiques dans le, on va dire, l'espace dans lequel j'ai grandi, qui m'ont vraiment impacté négativement, on va le dire comme ça. Et mon corps... l'a senti. Et en fait, par exemple, moi, j'avais la sensation, quand j'étais à la maison, enfin, quand j'étais petite, que j'avais pas le droit de parler, de m'exprimer, que c'était dangereux, en fait, parce qu'il y avait des conséquences qui étaient réelles. Je disais la mauvaise chose au mauvais moment, des choses comme ça. Et ça fait que, en fait, maintenant, c'est mon interprétation, mais je suis assez convaincue que mon corps a dit « Ok, c'est bon, on va attaquer la gorge, l'organe de l'expression, en fait. Et comme ça, c'est le message qu'on reçoit de l'extérieur. Donc voilà, ça s'est transmis physiquement et ça a fait que j'étais pendant 3 ans à l'hôpital. Et que maintenant, ça m'a pris 16 ans à m'en remettre. Voilà. Et en fait, c'est encore une fois ce concept de, tu vois. Et en fait... Moi, j'avais pas fait le lien entre tout ça, tu vois.
Je te laisse parler parce que tu le fais tellement bien. Et tu anticipes toutes mes questions que les auditeurs vont croire que je suis partie, mais je suis là et je l'écoute. Je l'écoute, j'ai plein de questions pour elle, mais elle les anticipe. Donc... Okay.
Tu peux me couper aussi, je sais pas.
C'est pour ça que je le fais, pour pas avoir l'air trop bête, mais okay. Je suis bien là. Okay. Vas-y, je te laisse.
En 2019, j'ai commencé à tout à coup voir comment tous les points étaient reliés. Et que, en fait, je pense que...
Tous les points, tu...
Bon, tous les, en fait, j'ai commencé à faire le lien entre plusieurs choses, donc ma maladie, les dynamiques à la maison, pourquoi mais j'avais toujours peur de certaines choses, ou etc. Et c'est des choses qu'en fait, je pense que quand, surtout quand c'est notre famille, nos proches, ben on préfère, il y a certaines choses qu'on préfère ne pas voir et se dire non, mais ma famille, elle est normale, c'est bon, c'est pas si grave que ça. Mais en fait, non, il y a des choses qui sont pas ok. Et quand on commence vraiment à faire du travail, ben on se rend compte que il y a certaines dynamiques qui sont pas ok et que c'est normal que ça nous impacte négativement et que c'est ok de devoir libérer des choses et que c'est ok de devoir faire ce travail. Donc c'était toute cette prise de conscience et de se sentir ben voilà, c'était juste pour moi personnellement très difficile et j'ai dû mettre des limites avec certains membres de ma famille assez radicales parce que j'ai compris plein de choses que j'avais pas compris jusqu'à présent. Voilà. Et mais bon, ça fait partie du processus et ça fait partie aussi de la guérison karmique aussi. Et je pense que beaucoup de personnes, surtout de notre âge, ont des processus assez similaires. En tout cas, parmi mes clientes, il y a beaucoup de personnes qui ont des familles un peu dysfonctionnelles. Et ils se disent, mais comment je suis arrivée là? Pourquoi? Et ils sont là pour l'alchimie, en fait. Ils sont là pour transformer tout ça. Et oui, à travers l'alchimie, mais le transformer en outil positif pour la société. Voilà.
Wow. On va aller vers la fin parce que là, j'ai promis de te libérer tout et on est très, très en retard. Donc, on va faire un quickie. J'ai 5 questions pour toi. Tu réponds du tac au tac et on va finalement clôturer petit à petit cet épisode, même si je serais restée encore une heure avec toi. Alors, Alix, dis-moi. Quelle est la leçon que tu as retenue quand tu étais en start-up que tu gardes avec toi et que tu implémentes aujourd'hui tous les jours?
Lean Startup Methodology. Vraiment de faire les choses de façon légère, efficace, testée pour arriver au MVP dont tu parlais. Mais juste, voilà, très légèrement. Ne pas passer 3 ans à faire un business plan sans parler à des clients. Mais non, juste, qu'est-ce que tu peux faire pour quelqu'un autour de toi? Teste, prends du feedback, optimise et avance avec des itérations rapides et légères. Ça, c'est clé. Ouais.
Quel est ton talent unique?
Unique.
Que toi, qui te rend vraiment spécial? Quelle est ton arme secrète à toi? Ton truc à toi?
Moi, je pense que j'arrive à voir les gens vraiment en profondeur. Je pose beaucoup de questions et ça m'intéresse vraiment. Je pense que j'arrive à vraiment transmettre une énergie, une force vitale dans mon travail. Quand je suis dans des séances avec mes clients ou les retraites, tout ça, je parle toujours d'électricité. J'essaie de transmettre cette électricité, tu vois, pour vraiment activer les gens. Et pour moi, ça m'active aussi. Il y a cet élément-là de transmettre de la force vitale.
Parce que tu nous as parlé tellement de choses, s'il y a un programme qu'on devait donner aux enfants de 10, 12 ans, lequel est-ce que tu rajouterais dans le programme actuel?
Éducation financière, absolument. Bon, évidemment, il y a la santé, il y a la méditation, tout ça, mais je pense que c'est clé, l'éducation financière. Comment gérer ses finances, comment mettre de l'argent de côté le plus tôt possible, où investir, comment générer de l'argent, enfin oui, c'est clé.
Pour toi, la définition du succès, dans 5 ans, si tu te retournes, tu auras réussi si tu as réalisé ou si tu es tel.
Je pense que c'est la réponse assez classique, mais ça dépend de l'impact que j'ai eu, je pense. De vraiment de regarder en arrière et de voir toutes les personnes qui ont reçu un impact positif de notre travail ensemble, des modules, des cours, des accompagnements, et qui sont vraiment profondément reconnaissantes. Moi, mon intention, c'est toujours que eux, dans X années, mais en fait, c'est vraiment un highlight qu'ils se souviennent toujours en fait de ce qu'on a fait ensemble.
Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné et que tu veux partager avec nous?
Ma coach Tony Robbins, elle m'a dit tout au début, quand j'avais peur de me quitter mon job et tout ça, elle m'a dit une phrase clé que on répète en fait encore maintenant, c'est trust first and then decide. Donc fais d'abord confiance à l'univers, en la vie, et après décide, prends tes décisions. Et franchement, c'est pas facile à implémenter.
Mais c'est une forme de lâcher prise qui donne beaucoup de pouvoir, une fois que tu arrives à le faire, oui.
Ouais.
C'est vrai.
De s'imaginer, best case scenario, de s'imaginer son futur idéal et de vraiment faire confiance et à partir de là, prendre des actions. C'est comme ça que moi, je le traduis. Et ça s'applique pas dans tous les contextes, mais pour son développement à soi, moi, ça m'a beaucoup aidée. Ouais.
Et la dernière question qui est liée au podcast. Alix, dis-moi, pour toi, au regard de tout ce que tu viens de partager avec nous et de ton parcours, l'essentiel, c'est de...
L'essentiel, c'est de, je pense, se faire confiance. Et je pense que c'est de s'autoriser à se découvrir soi-même. Comme ça, on peut faire... s'autoriser à faire les libérations dont on a besoin, etc. Pour prier et pour s'exprimer et pour faire ce qu'on est venu faire, en fait, tu vois. Donc,
En tout cas, toi, tu es un être de lumière et je pense que tu impactes positivement énormément de vies et que tu n'es qu'au début de ton chemin. Donc merci, en tout cas, d'avoir croisé ma route et d'avoir passé ce moment avec nous. C'était un plaisir de t'avoir.
Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir.
À bientôt. It's a wrap. Enfin, je vais te laisser partir.
Je regardais ton téléphone, j'étais là.
Alors, le petit mot de la fin. Si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Aussi, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis et de vos proches qui pourraient être intéressés. Cela nous aiderait tellement à grandir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, laissez-moi un avis ainsi que 5 étoiles sur iTunes. C'est comme ça que nous aurons la chance de monter dans les classements et d'atteindre plus de monde. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous rejoindre. Poursuivons notre route ensemble. À la semaine prochaine. À bientôt.